L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 7h50. Nous sommes dans le Surrey, une région du sud de l'Angleterre, au petit matin du 4 décembre 1926. La brume flotte au-dessus de l'étang de Silent Pool. Situé tout près de celui de Sherborne, il est le théâtre de phénomènes mystérieux depuis de nombreux siècles. Personne n'est mis à aller quand le soleil a disparu, pas même la police. Pourtant, les forces de l'ordre s'y trouvent, à la recherche d'une célébrité nationale. Et dans quelques instants, le long du bois longeant l'étendue d'eau, ils retrouveront Sir Maurice Crowley, les quatre portières ouvertes, les phares encore allumés. Agatha Christie, puisqu'il s'agit d'elle, reste introuvable. Les zones d'ombre s'épaississent un peu plus. 7h50, l'heure H de mon récit. Une demi-heure plus tôt, le lieutenant Pierce Morgan est arrivé au poste de police du village d'Albury. Dans cette petite commune d'à peine 1000 habitants, son travail est tranquille. Il se résume la plupart du temps à des vols de poules ou des accidents de la circulation. Le policier a ses habitudes. Très routinier, comme chaque matin, il regarde sa montre et ouvre la porte du poste à 7 heures précises. Directement, il se rend à la cafetière, met en route le mécanisme de la petite gazinière à l'arrière. Comme d'habitude, elle refuse de s'allumer. Il y met un coup de botte, toujours au même endroit, et la machine enfin se décide à démarrer. Les radiateurs, devenus froids pendant cette nuit d'hiver, se sont rallumés, eux aussi. Pierce Morgan reste quelques minutes les fesses collées à l'un d'entre eux, se peignant la moustache. Puis, il va chercher une tasse, se sert une bonne quantité de ce liquide noirâtre, généralement imbuvable, et s'affaisse dans son fauteuil. Ah, il souffle. Aujourd'hui, ce sera une journée paperasse. Son supérieur est un salopard. Pierce le déteste. Et l'autre le lui rend bien. Il ne se voit jamais, mais à chaque fois qu'il l'a au téléphone, c'est toujours le même refrain. Son chef lui impose de remplir les papiers de tous les autres postes de police, sous prétexte qu'il serait moins occupé qu'eux. Non mais il croit quoi, ce capitaine tout droit sorti de l'école ? Ça lui prend du temps aussi à lui de faire le tour du patelin, d'aller chez Joe prendre un café pour vérifier que tout va bien. Bon, d'habitude, il y déjeune le mercredi, mais cette fois, sa femme lui a préparé un sandwich. Trop de papier. Il ouvre le premier dossier posé sur son bureau, passe le tout machinalement revu et rapidement se perd dans ses pensées. Quelques minutes plus tard, la tasse fumant toujours sur la table, le téléphone sonne à l'autre bout de la pièce. Très étonnant à cette heure. Il est à peine 7h30. Cette journée, enfin, va-t-elle lui apporter un peu de surprise ? Excité par cet appel inattendu dans son quotidien plus que routinier, Pierce décroche. C'est la demeure d'Agatha Christie à l'autre bout du fil. La romancière a quitté la maison la veille au soir et n'est pas revenue. Ses draps sont froids. Le colonel Christie, héros de guerre, grande figure incarnant la morale et les valeurs anglaises, semble inquiet. Il demande de l'aide. Pierce fait mine d'être occupé, mais lui annonce se mettre tout de suite en route. Il pense emprunter la route entre Albury et la grande maison bourgeoise du couple. Entre les deux se trouve Silent Pool. Cet étang maudit est une zone sur laquelle il n'aime pas beaucoup se rendre. Mais ce matin, peut-être, mû par une intuition, il se décide à prendre cette direction. Oh, c'est un détour, certes, mais peut-être que ça vaut le coup. Après tout, lui qui voulait éviter sa paperasse, eh bien, le voilà servi. Comme d'habitude, la voiture du poste de police rouspète au démarrage et n'avance pas ensuite. Heureusement, toute cette zone est proche. À son arrivée autour de l'étang, la brume entoure Pierce et l'oppresse. Le soleil ne va pas se lever ici aujourd'hui. Les esprits qui hantent ce lieu, eux, semble prêt à sortir et à torturer les vivants. De vieilles histoires traînent autour de Silent Pool. Les légendes locales sont féroces et les contes racontés aux enfants des villages alentours n'aident pas. Il a beau avoir 50 ans, eh bien il a la frousse, le Pierce. Son ventre gargouille. Il prie pour qu'il se taise, au cas où les fantômes l'entendraient. Il commence son inspection du côté sud. Ses phares glissent le long de la route. Oh, et puis mince, c'est le colonel Christie quand même, c'est pas n'importe qui. Et donc, en son fort intérieur, démarrent les négociations entre son cœur et sa raison. Voilà. Mais comme souvent chez le policier, la raison l'emporte. Et il finit par sortir de la voiture. Une lampe de poche faiblarde à la main, il suit le long du bocage. Il a les pieds pris dans les ronces et avance tant bien que mal pour enfin déboucher sur la zone d'eau calme et paisible. La tranquillité avant la tempête, pense-t-il, marmonnant dans sa moustache. Sur la rive en face, il remarque deux renards qui boivent tranquillement. Le craquement des branches sous ses bottes les met en alerte. Même les animaux sont constamment dans un état de vigilance anormal. Tous les sens de Pierce sont accrus, eux aussi, comme alertés par ces présences auxquelles ils refusent de croire. Mais ces histoires qu'on lui a racontées lorsqu'il était enfant le hantent encore constamment chaque fois qu'il pose le pied à Silent Pool. Tout remonte au XVIe ou au XVIIe siècle, il a oublié. Un jour, la fille d'un bûcheron d'un petit village des alentours vient flâner au bord de l'étang. Un cavalier qui passe par là décide de la tourmenter. C'est un noble. Alors qu'elle se baigne, il tente de l'attirer sur la berge. Elle refuse. Le cavalier fait alors avancer sa monture dans les premiers mètres de l'étang et, de manière instinctive, la jeune fille recule en eau profonde. Elle ne sait pas nager et, immanquablement, elle se noie. Les villageois ne retrouveront que le corps de la victime et le chapeau du criminel. Il fut alors surnommé le prince John. Les anciens racontent que les soirs de pleine lune, on entend toujours les hurlements de la jeune fille et les hennissements du cheval. Notre Pierce, lui, et bien qu'on soit encore trop tôt le matin, flaire la mort et le mystère. Se convainquant que rien n'est à trouver en ce lieu maudit, il retourne en toute hâte à sa voiture et repart en trombe. En remontant en direction de la demeure des Christie, son œil est attiré par deux points lumineux en face de lui, sur le bord de la route. Une voiture ? Une voiture à cette heure-ci ? Bizarre. Surtout, Pierce se rend compte qu'elle n'avance pas. Elle est garée, les portières ouvertes, les phares allumés. Le policier se gare, avance vers la voiture et regarde à l'intérieur. Il trouve un manteau de fourrure et un permis de conduire au nom d'Agatha Christie. Le policier est pris d'effroi. Il fait hâtivement le tour de la voiture, cherche des traces, mais rien, juste un poudrier. Il découvrira plus tard que c'est celui de la mère de la romancière. L'enquête autour de la disparition commence donc tout près de l'étang maudit de Silent Pool. Pierce retourne au poste joindre ses collègues. Il leur demande d'encadrer la voiture. Il repart ensuite en trombe à former le colonel Christie. Il est porteur de mauvaises nouvelles. Suicide, accident, disparition volontaire. Mais que s'est-il passé ? Et puis, la question subsidiaire, au fond, est différente. Jusqu'où une personne rongée par le chagrin et la tristesse peut-elle aller pour soulager sa peine ? Notre histoire commence le 25 avril 1917, au cœur de la nuit. Nous sommes à Torquay, en bord de Manche. Les embruns venus de la plage secouent les tentes montées à la hâte dans la cour pavée de l'hôpital militaire de la ville. La journée se déverse ici une énergie qui semble tout droit venue du creux des enfers. Mais la nuit, un climat paisible et placide semble faire redescendre toute la pression accumulée. Dans l'une de ses tentes en toile de jute s'est endormie il y a quelques heures Agatha Christie. La Première Guerre mondiale sur le continent fait rage. La jeune femme de 27 ans a refusé de rester bien au chaud devant l'âtre de sa cheminée alors que chaque minute meurt nombre de ses concitoyens. Agatha s'est donc engagée en tant qu'infirmière bénévole dans sa ville natale avant d'avoir obtenu, la semaine précédente, son diplôme de pharmacienne. Elle s'est familiarisée avec toutes sortes de poisons et d'antidotes. Bientôt, toutes ses connaissances alimenteront les pages de ses romans. Soudain, une mouette frôle la tente et émet un cri rauque qui réveille en sursaut la jeune scientifique. La montre à côté d'elle indique qu'il est 3 heures du matin. S'enroulant dans une couverture, elle se lève et sort. La lueur du croissant de lune vient frapper le bâtiment médical d'une aura aussi belle que la nuit de printemps qui s'écoule paisiblement. Le sommeil la quitte et déjà ses petites cellules grises se mettent en ordre de marche. Elle réfléchit à l'intrigue de son roman à venir. Malgré de nombreuses tentatives, pour l'instant toutes refusées, elle n'a pas renoncé à sa passion de l'écriture. Cette aventure-ci a commencé en 1911. Sa mère étant malade, Agatha s'est rendue avec elle au Caire, le climat y étant plus chaud. Ses occupations sur le sol égyptien étaient plutôt de nature amoureuse. À l'époque victorienne, une jeune femme de bonne famille se devait de trouver un mari convenable. Mais rien ne se profile d'extraordinaire de ce côté-là, et Agatha écrit ses premières nouvelles. Envoyées à de nombreux éditeurs, souvent sous des pseudonymes, elles sont écartées, une à une. La jeune femme ne parvient pas à publier. Le monde de l'édition est déjà une fosse à serpents et elle ne parvient pas à les charmer. Elle n'est pas passionnée par les visites des sites antiques sur place. Non, elle préfère rester dans sa chambre, accoucher encore et toujours des mots sur du papier. À défaut de convaincre les professionnels du secteur, elle améliore son style. L'attrait pour le paranormal et le mystique est réel et Agatha joue sur cette fibre. Sa grande sœur est restée en Angleterre. Il faut dire qu'elle a trouvé un mari, qu'elle est belle, qu'elle est brillante. Vous l'aurez compris, rapidement, la plus jeune de la fratrie développe un sentiment d'infériorité qui va la suivre toute la première partie de sa vie. Il n'empêche qu'elle aime profondément son aîné, qui a eu le mérite de lui mettre le pied à l'étrier en lui faisant découvrir Sherlock Holmes et Arsène Lupin. Agatha en est subjuguée. Elle tombe amoureuse des intrigues policières, des rebondissements, des crimes et des retournements de situation. Sous cette impulsion, elle se décide, en Égypte, à rédiger un premier roman à intrigues policières. Il est achevé et envoyé aux éditeurs anglais sous un pseudonyme. Mais là encore, pas de miracle. Le refus est difficile à encaisser cette fois. Il faudra même l'appui d'un ami de la famille, le célèbre écrivain Eden Philpotts, pour lui permettre de soumettre un nouveau texte, tant le premier n'a pas convaincu. Eh oui, le talent n'est pas toujours inné. Parfois, il se travaille, il se rôde, se polit avec amour et avec soin. Le talent n'est pas qu'une affaire d'acquis. Il se stimule, s'enrichit d'expériences et de rencontres. C'est exactement de cette manière que celui d'Agatha Christie va naître. Par le dur labeur des besogneux. Et puis, les nuages finissent toujours par se dissiper et laisser enfin la place à un peu de soleil. En 1912, à son retour du Caire, toujours à la recherche de la perle rare maritale, Agatha finit par s'enticher d'un aviateur aussi grand que beau, Archibald Christie. Après avoir rencontré 4 prétendants au profil aussi intéressant que des moines en fin de carrière, là, elle tire le gros lot. Enfin ! Mais, comme dans la vie, le bonheur ne vous prémunit pas du malheur. La première guerre pointe le bout de son nez. Alors, à la Noël 1914, et bien que son fiancé ait déjà mobilisé depuis 6 mois, il se marie. Et elle décide aussitôt de s'engager comme volontaire pour aider son pays. Qui sait ? Elle trouverait peut-être dans les affres de la guerre de l'inspiration. Ces 4 années de conflit ne seront en effet pas de tout repos. Agatha parvient toutefois à rassembler ses idées et à développer la trame de ses histoires à venir. Cela lui permettra également de maîtriser parfaitement tout ce qui touche à l'art des poisons. Ce sera au cœur de ses enquêtes policières à venir. Alors vous allez me dire, comment une infirmière pharmacienne est-elle amenée à manipuler des poisons ? En réalité, elle se sert de préparation lors des soins des blessés qu'on lui amène. Ses supérieurs sont formels. La jeune femme est très douée et pourrait faire carrière. Mais elle a déjà d'autres plans. La période de la guerre et de ses malheurs se termine le 11 novembre 1918. Les époux Christie, pour la première fois, cohabitent. Les choses se passent plutôt bien et la jeune femme tombe enceinte. La jeune Rosalinde vient au monde le 5 août 1919, au cœur d'un été chaud mais humide. Ils achètent une maison dans le centre de Londres et Archibald est promu au grade de colonel. Tout va pour le mieux, hormis la carrière littéraire d'Agatha, qui, elle, est au point mort. L'année 1920 sera heureusement pour elle celle du renouveau. La jeune femme trouve enfin un éditeur qui accepte de la prendre sous contrat. Elle se fait cependant arnaquer. Agatha s'engage pour 6 romans, mais contre un salaire tout bonnement indécent, tellement bas que son mari en vient à se moquer de son sens des affaires. Échaudée, elle engage donc un agent qu'elle gardera tout le long de sa carrière. Son mari, si prompt au sarcasme, est lui-même rapidement en proie à des soucis d'argent. La situation financière du ménage Christie se détériore. Mais nouvelle éclaircie dans le ciel embrumé. Son nouveau roman, La mystérieuse affaire de Steele, est un petit succès. Agatha commence tout doucement à faire son apparition dans le microcosme littéraire. Et c'est alors qu'entre en scène un personnage tout droit sorti de son imagination. L'un des Belges de fiction parmi les plus connus au monde. Le fameux Hercule Poirot, avec ses petites cellules grises, sa moustache et sa canne. Tous les ingrédients semblent réunis pour la conduire sur la route du succès. Entre 1920 et 1926, Agatha va publier les 5 autres romans de son contrat avec ce premier éditeur. Elle s'impose dans le paysage et dispose d'une petite notoriété nationale. Les Christie achètent une maison de campagne dans le Surrey avec l'appui financier de leur famille. Le cocon familial semble bien se porter. Mais comme vous le savez, les apparences parfois sont trompeuses. Le destin arrive au galop et chevauche vers la porte d'Agatha Christie. Bientôt, 2 catastrophes conjointes seront à l'origine de l'une des disparitions les plus mystérieuses de l'histoire de l'Angleterre.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H est consacrée à l'une des disparitions les plus inquiétantes et mystérieuses qu'ait connue l'Angleterre, celle d'Agatha Christie. Sa jeunesse, partagée entre la nécessité de se trouver un mari et son engagement pour son pays durant la Grande Guerre, lui a forgé un caractère à toute épreuve. Elle parvient conjointement à épouser un colonel de la Royal Air Force en devenir et à publier tant bien que mal un premier ouvrage à la fin de l'année 1918. Elle signe un premier contrat avec une maison d'édition qui l'arnaque, mais toujours positive. Agatha Christie se dit, à raison, que cela lui permet au moins de voir publier 6 premiers romans. Hercule Poirot voit le jour et au cœur des années 1920 galopantes, un petit succès national s'installe pour elle. Et le ciel de son destin, vous l'avez déjà compris, est quelque peu indécis. L'année 1926 qui se profile va s'inscrire parfaitement dans ce parcours chaotique, précipitant sa disparition. Nous sommes le vendredi 3 décembre 1926, il est 22h10. Dans les couloirs de sa propriété, le plancher craque sous ses pieds. La femme qui s'avance vers la chambre de la petite Rosalinde n'est plus qu'un fantôme. Étouffée par le chagrin depuis des semaines, torturée par des visions plus noires les unes que les autres, Agatha Christie n'avance plus qu'à la manière d'un robot. Son 6e roman, Le meurtre de Roger Ackroyd, vient de sortir en librairie. L'écrivaine est enfin libérée de son contrat avec son éditeur véreux et surtout, le livre se vend bien. Sa popularité est croissante. mais n'atteint pas encore des sommets extraordinaires. De toute façon, ce soir, elle n'en a plus rien à faire. C'est terminé. La peur, la colère, la tristesse, les larmes ont gagné la partie. Il ne reste plus rien de la femme qu'elle était il y a encore 6 mois. Plantée devant la porte de la chambre de sa fille, elle pleure encore. Ses larmes ne sont plus chaudes. Elles sont froides comme la mort. Sèchement, elle se saisit d'un mouchoir déjà trempé et gratte à la porte en érable avant d'entrer. Sa fille est là, couchée dans un lit à baldaquin. Elle dort déjà. Au pied du lit, Agatha se tient fermement au cadre en bois de peur de s'effondrer si elle le lâche. Elle la regarde, tendrement, et cette vision lui inspire quelques mots. Il faut qu'elle les note. Elle embrasse sa petite sur le front, remonte les draps qui sont venus se lever sous les aisselles de sa fille et repart, fermant la porte tout doucement derrière elle. En sortant, elle lâche ces quelques syllabes du bout des lèvres. « Adieu, ma chérie. » Agatha retourne dans sa chambre et couche sur papier les mots qui lui sont venus au pied du lit de sa fille. L'amour d'une mère pour son enfant ne connaît ni loi, ni pitié, ni limite. Il pourrait anéantir impitoyablement tout ce qui se trouve en travers de son chemin. Et elle part. Elle part laissant cette feuille volante comme un dernier au revoir. En bas des escaliers, elle attrape son manteau de fourrure, les clés de sa voiture, et croise le regard de sa gouvernante. Cette dernière, son amie sincère, sait qu'elle ne peut plus retenir sa patronne qui file vers les limbes en cette nuit de décembre. Alors, elle ouvre la porte, sans mot dire, et laisse la romancière partir vers l'inconnu. Le moteur démarre au quart de tour. Les graviers sont projetés par la rapidité de la première accélération. Agatha disparaît dans la nuit, de la même manière qu'une étoile filante dans la Voie lactée. Pour comprendre cet acte désespéré, nous devons ensemble remonter la machine du temps et revenir quelques semaines plus tôt. De santé fragile depuis longtemps, la mère d'Agatha meurt au cœur de l'automne. Elle l'a toujours accompagnée partout et elle avait besoin de ce phare dans sa vie. Agatha prend une claque monumentale à l'annonce de son départ. Voilà plusieurs fois que j'évoque avec vous cette figure phare de sa vie sans pour autant détailler les liens qui les unissent. L'enfance d'Agatha Christie est marquée par un premier drame. Ce drame, c'est la mort tragique de son père. Il fut celui qui lui enseigna l'arithmétique et les bonnes manières durant sa petite enfance et avec qui elle tissa une véritable complicité. Elle n'a que 11 ans lorsqu'il part pour son dernier voyage et pour elle, c'est une première catastrophe. Devant l'absolue détresse de son enfant, sa mère va alors prendre à bras le corps son éducation et les deux femmes vont, les années passant, développer une réelle complicité. C'est grâce à leurs échanges qu'Agatha rédigera ses premiers textes et ses premiers petits poèmes qu'elle fait corriger à cette figure maternelle bienveillante. C'est également elle qui poussera sa fille à finir ses études à Paris, prenant même la décision de l'accompagner pour faciliter son acclimatation. Mais la maladie guette la matriarche. C'est de son état de santé précaire que découle un voyage au Caire pour y passer des vacances sous le soleil. À peine rentrée de ce voyage, Agatha tombe malade à son tour et passe des semaines clouée au lit avec une fièvre tenace. Un jour, durant lequel son moral flanche face à cet immobilisme forcé, sa mère sort lui acheter un carnet et enjoint de force sa fille à écrire sa première histoire. Agatha, donc, est persuadée qu'elle doit tout à sa mère et que son talent est né de cette complicité et de cet amour aussi tourbillonnant qu'un ouragan dans un ciel tourmenté. Elle vit donc très mal ce décès, plus encore que celui de sa sœur aînée survenue peu de temps auparavant, ou que celui de son père, dont elle a fait le deuil. Elle n'accepte pas de franchir cette étape de la vie que connaissent pourtant de nombreux enfants. Morte de chagrin, son seul refuge, c'est l'écriture. L'acceptation passe par la rédaction de ses romans, de nouvelles inédites, de pensées griffonnées là, sur des feuilles un peu partout, à la manière d'un jardin de mots que serait devenu son bureau. Elle se refuse à accepter l'évidence que perdre ses parents fait partie du chemin sinueux de l'existence. Son imaginaire se heurte au réel, elle perd pied, tangue. L'iceberg de son Titanic, c'est la perte de sa mère. Comme en apnée dans une mer en pleine tempête, Agatha tient le coup, tant bien que mal. Elle est mère de famille, épouse d'un colonel dont elle est éperdument amoureuse. Ce dernier, pourtant, ne tarde pas à lui asséner le coup de grâce. Beau matin, il se pointe devant la porte de sa salle de travail, une valise à la main. Il lui annonce qu'il la quitte. Sans cri. Une colère froide dans la voix. Le pire, c'est qu'il demande le divorce. Dans la foulée, Agatha apprend qu'il a une maîtresse, depuis un an. Il tente de se justifier, évoque qu'elle n'est plus présente pour sa famille, qu'elle passe tout son temps à écrire, qu'il en a marre de vivre avec des gens malheureux. Tout y passe, tout est bon. Les lâches, de toute façon, trouveront toujours de belles excuses pour justifier des actes ignobles. Peut-on être désigné coupable d'être malheureuse? Vilipendé de vouloir réussir? Quand on est une femme, certainement. Agatha passe de l'amour à la haine, de la haine au malheur. Elle écoute son mari déverser son flot d'excuses et de reproches. Elle en reste tétanisée. Incapable de rassembler ses mots, ses idées. Avant même qu'elle ait pu reprendre sa respiration, Archibald part bille en tête. Dehors, dans la cour, sa maîtresse est venue le chercher en voiture. Ultime affront, jusque sur son perron. Sa fille, âgée de 7 ans, elle, ne comprend pas. Elle n'a même pas vu son père partir. Et pendant qu'Agatha court après le carrosse qui emmène loin d'elle son prince charmant, la petite Rosalinde est prise en main par la gouvernante, aussi ébahie que le reste de la maison. Elle semble ivre de folie et de chagrin, la romancière, et alors qu'elle s'arrête à bout de souffle au portail en fer forgé de la propriété, elle s'effondre, physiquement, mentalement, psychiquement. Elle quitte son corps et part loin, au Caire avec sa mère, au cœur de l'hôpital militaire pendant la guerre avec son beau colonel, avec Hercule Poirot dans ses enquêtes. Sa vie lui échappe, son destin aussi. Immédiatement, assaillie de toutes parts, la forteresse cède. Le pont-levis explose, les défenses de la muraille sont brisées. Le château brûle et une seule solution finit par s'imposer d'elle-même. Disparaître à tout jamais. À mort le chagrin. À mort la souffrance. Partir pour oublier, partir pour ressentir, rien qu'une fois qu'on est vivant. Agatha Christie a cédé, dans un tourbillon d'émotions négatives, en un claquement de doigts. La romancière n'existe plus.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, leur hache évoque la disparition d'Agatha Christie au cœur de l'hiver 1926. 3 semaines avant Noël, la maman de la petite Rosalinde s'évapore sans laisser de traces, si ce n'est sa voiture dans laquelle se trouve entre autres son manteau. Orpheline de sa mère, future divorcée de l'amour de sa vie qui la quitte pour une autre, le malheur la fait chuter totalement. Agatha se retrouve les pieds dans des sables mouvants. Cette situation totalement inextricable la conduit à un acte insensé, disparaître. Elle, la romancière pourtant en plein essor. Mais alors, que s'est-il passé ce 3 décembre au soir? Et surtout, qu'est-elle devenue? Patience. Patience, nous arrivons tout doucement au crépuscule de notre histoire. « La presse, dès la découverte de la voiture, s'empare de l'affaire Agatha Christie. Tous les ingrédients du succès sont réunis. Drugs, sex and rock'n'roll, avant l'heure en somme. S'est-elle suicidée? Un kidnapping peut-être? Ou plus sombre, son futur ex-mari aurait certainement pu engager des tueurs. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, les théories, plus farfelues les unes que les autres, sont nombreuses et inondent les papiers. Pour Archibald Christie, colonel dans l'armée tout de même, le soufflet du scandale est total. Les langues se délient et on évoque ses aventures extra-conjugales et sa volonté de divorcer. Pour un homme issu d'une bonne famille, la pilule est dure à avaler. Mais il ne lésine pas sur les moyens pour tenter de retrouver Agatha et surtout se dédouaner en cas de macabre découverte. Pour la première fois de l'histoire en Angleterre, toute la zone est survolée par des aéroplanes. Eh ben oui, il est de la Royal Air Force, le colonel. Des chiens, plus de 1000 hommes issus des forces de police de tout le sud de l'Angleterre, un drainage complet de ce maudit étang de Silent Pool. Rien n'y fait. Agatha Christie est toujours introuvable. L'étape suivante, à partir du troisième jour, c'est la réalisation des premiers photomontages, qui sortent aussi par voie de presse. Différentes photos de Christie sont modifiées. On lui fait porter des lunettes, un chapeau, de nouvelles coupes de cheveux. Tous les styles y passent. Tout le pays se passionne pour cette disparition rocambolesque au milieu de la forêt et près d'un étang prétendument hanté. Les ventes des livres d'Agatha, elles, explosent littéralement. Les premiers témoignages reviennent aux oreilles des autorités. L'un d'eux affirme qu'elle est habillée en homme, grimée d'une moustache. Un autre, qu'elle sillonne les rues du vieux Londres. Ses amis écrivains, eux aussi, tentent d'aider. Sir Conan Doyle, rien que ça, dépose chez une médium l'un des gants de la romancière. Celle-ci affirme qu'elle est planquée quelque part, mais qu'elle ne va pas tarder à revenir au sein du monde des vivants. À l'ombre. En attendant, rien ne bouge. Passion et recherche policière ne font guère bon ménage et l'affaire s'enlise. Agatha, elle, reste introuvable. Des jours, puis une semaine, puis deux. Rien. Pas une seule trace. Alors que tout le monde s'inquiète, le dénouement, lui, est proche. Il ne va pas tarder à se révéler. Nous sommes le 14 décembre 1926. Il est 20h. Au nord du pays se trouve la charmante ville de Harrogate. Bon, si l'Angleterre devait se résumer en une seule carte postale, ce serait certainement vers Harrogate qu'on se tournerait pour l'illustrer. Cette charmante petite ville est un petit pôle touristique local et son plus bel hôtel, le Swan Hydropathique, est un fleuron. Ce soir, comme tous les mardis de l'hiver, un groupe de jazz vient s'y produire. Il est 20h et Arthur, le saxophoniste de la petite troupe, monte sur scène. Devant lui, un parterre d'habitués. Il en connaît la plupart, leur sourit et sonne les premières mesures de leur dernière composition. En plein milieu du morceau, alors qu'il reprend son souffle, il est coupé dans son élan. Là, au milieu de la salle, assise à une table et dégustant des huîtres, se trouve la disparue la plus recherchée du pays, Agatha Christie. Discrètement, il le fait remarquer à son batteur qui lui-même le signale à un membre du personnel de l'hôtel. On appelle tout de suite le mari de la romancière. Le pied sur l'accélérateur, il se précipite et avale les kilomètres qui le séparent de sa femme. Il la trouve bien sagement assise à sa table. Mais bizarrement, alors qu'il lui effleure le bras, elle ne le reconnaît pas. Il lui faudra plusieurs minutes pour retrouver ses esprits. Une fois revenue à elle, au moins de manière partielle, elle monte dans sa chambre et va enfiler une robe de soirée. Elle redescend l'escalier, attrape le bras du colonel et quitte l'hôtel, sans dire un mot à personne. La romancière est donc vivante. Mais que s'est-il passé alors, entre le moment où elle s'est décidée à abandonner sa voiture et son arrivée dans ce lieu de passage à des centaines de kilomètres de sa propriété? Eh bien, au risque de vous décevoir, tout le monde l'ignore. Agatha n'en a jamais dit un mot, pas même à sa fille. Elle a avoué dans une interview avoir pris des notes audio sur cet épisode en préparation de l'écriture de ses mémoires, mais à l'écoute, il s'est révélé qu'elle n'était pas exploitable. La dame de lettres a toujours soutenu qu'elle a eu des soucis de mémoire. Les théories viables, elles, ne sont pas nombreuses. Première hypothèse. Agatha Christie a sciemment disparu afin de coller une honte nationale à son volage de mari, qui d'ailleurs obtiendra le divorce 2 ans plus tard. La famille a toujours nié en bloc cette version. Il est également possible qu'elle ait eu la volonté de faire décoller sa carrière. Mais là encore, si bien entendu cette fugue fut l'étincelle du succès, il paraît peu probable que ce soit le mobile. Enfin, et c'est la piste qui tient la corde, il aurait pu s'agir d'une fugue dissociative, d'une déconnexion du cerveau, si vous préférez. Morte de chagrin, l'instinct de survie prend le dessus et alors le corps, avec ce qu'il reste d'émotion, prend la fuite quelque part, comme un doigt qui appuierait sur la détente d'un bouton reset, quelque part dans les méandres de l'esprit humain. Quoi qu'il en soit, et sans preuve, la solution se trouve peut-être dans les écrits postérieurs de la romancière. Hercule Poirot, tout comme elle, devient une superstar. Plus de 350 millions d'exemplaires ont été vendus à travers le monde jusqu'à aujourd'hui. L'entreprise Christie est un empire jamais démenti depuis cette fameuse fin d'année 1926. Parfois, au cœur des enquêtes du célèbre détective belge, se trouve le profil de femmes fatales et vengeresses qui, après un adultère, en viennent à élaborer des plans des plus machiavéliques. De là à y voir un message de la maîtresse du genre, difficile à dire avec certitude. D'un point de vue personnel, le divorce avec le colonel Christie n'est pas le point final de la vie amoureuse d'Agatha Christie. Elle rencontre quelques années plus tard un archéologue qu'elle aimera sincèrement. Après le mariage passion, ce sera l'union de la raison, dirons-nous. Celui-ci n'est pas volage, et ils resteront ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare en 1976 pour l'écrivaine. Pour qualifier ses secondes noces, elle aura ces mots, témoins d'un humour bien britannique et piquant. Les archéologues font des maris idéaux, plus leur femme vieillit et plus ils en sont amoureux. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter dans cet esprit avec une citation qui, peut-être, pourra vous donner un indice pour creuser cette affaire plus en profondeur. En 1923, 3 ans avant les événements, Hercule Poirot enquête dans un ouvrage intitulé « La disparition de Monsieur Davenheim ». Une disparition. Tiens donc. Alors qu'un des protagonistes de l'affaire lui demande son avis, le détective à la petite moustache retroussée lui répond ceci. Il existe plusieurs catégories de disparitions. Dans la première, la plus courante, se rangent les disparitions volontaires. Dans la seconde, les cas d'amnésie dont on abuse beaucoup. Peu fréquents, il arrive quand même de temps à autre qu'il y en ait d'authentiques. Alors d'après vous, comment qualifier cette éclipse précipitée et mystérieuse de l'une des plus célèbres romancières de l'histoire? En tous les cas, disons-le, la reine du suspense aura réussi son coup et continue, près de 100 ans après, à nous torturer les méninges. Voilà pour le récit de cette histoire non élucidée que je vous ai racontée grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.